Le consolateur, l'avocat. Nous entrons maintenant dans le cœur de la doctrine du Saint-Esprit, telle que nous la trouvons en Jean 14, 15 et 16. Dans les premiers versets de Jean chapitre 14, le Seigneur Jésus dit qu'il retourne au ciel pour préparer une place pour les siens et qu'ensuite il reviendra pour les y conduire. Dans les versets 15 à 19, il dit
« Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. » Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Parce que moi je vis, vous aussi vous vivrez.
Au verset 26, nous voyons que le Consolateur est le Saint-Esprit.
Jean 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. »
Toutefois, le Seigneur parle de lui d'une manière tout autre que dans les autres passages que nous avons considérés jusqu'ici. Le Seigneur ne parle pas de la vie, comme dans les chapitres 3 et 20, ou de la puissance qui opère dans cette vie, comme au chapitre 4. Il n'est pas davantage question d'un fleuve d'eau vive qui coule du croyant, Jean chapitre 7. Il parle ici d'une personne comparable à lui-même, car elle a la même nature. Seule une personne peut être envoyée, peut demeurer avec nous et en nous, peut nous enseigner et nous rappeler les choses que le Seigneur Jésus a dites, verset 26, peut rendre témoignage, chapitre 15, verset 26, peut convaincre, chapitre 16, verset 8, conduire, écouter, parler, annoncer, prendre, chapitre 16, verset 13 à 15.
Chapitre 15, verset 26. Mais quand le Consolateur sera venu, lequel moi je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, celui-là rendra témoignage de moi. Chapitre 16, verset 8 « Et quand celui-là sera venu, il convaincra le monde de péché et de justice et de jugement. » Chapitre 16, verset 13 à 15 « Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. » Et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Celui-là me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce qu'a le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend du mien et qu'il vous l'annoncera.
Si nous lisons ces chapitres, nous le verrons tout de suite. Cette personne est envoyée par le Père, verset 26, et mise par le Seigneur Jésus au même niveau que lui-même. Le mot grec « parakletos », qui est traduit ici par « consolateur », ne revient que 5 fois dans le Nouveau Testament, 4 fois dans les passages mentionnés plus haut, où le Seigneur Jésus nomme ainsi le Saint-Esprit, et 1 fois à 1 Jean 2, verset 1, où le Seigneur Jésus est appelé ainsi. Dans ce passage, le mot est traduit par « avocat ».
1 Jean 2, verset 1er, « Mes enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. »
Le sens du mot « parakletos » n'est pleinement rendu ni par consolateur, ni par avocat. Il s'agit de quelqu'un qui soutient la cause d'une personne et prend soin de tous ses intérêts. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait pour ses disciples lorsqu'il était avec eux. Luc 22, verset 35-37.
Et il leur dit, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans sandales, avez-vous manqué de quelque chose ? et ils dirent de rien. Il leur dit donc, mais maintenant, que celui qui a une bourse la prenne, et de même celui qui a un sac, et que celui qui n'a pas d'épée, vende son vêtement et achète une épée. Car je vous dis qu'il faut encore que ceci qui est écrit soit accompli en moi, et il a été compté parmi les iniques, car aussi les choses qui me concernent vont avoir leur fin.
Jean 10, verset 11.
Moi, je suis le bon berger met sa vie pour les brebis.
Maintenant, il les quitte et leur demande de manifester leur amour en gardant ses commandements. Lui montrerait son amour en priant le Père d'envoyer à sa place un autre consolateur qui ne resterait pas seulement un temps avec eux, comme lui qui n'avait été que 3 ans parmi eux. Ce consolateur resterait avec eux éternellement. Oui, en lui le Seigneur lui-même viendrait à eux. Jean 14, verset 18.
Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous.
Et en Jean 16, verset 7, le Seigneur dit même qu'il était avantageux pour eux qu'ils s'en aillent, car ce n'était qu'alors que l'autre consolateur viendrait.
Jean 16, verset 7. Toutefois, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai.
Il ressort de tout cela que c'est une personne divine qui viendrait sur la terre lorsque le Fils serait remonté au ciel. En Actes 5, versets 3 et 4, il est aussi expressément dit que le Saint-Esprit est Dieu.
Mais Pierre dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur que tu aies menti à l'Esprit-Saint et que tu aies mis de côté une partie du prix de la terre? Si elle fût restée non vendue, ne te demeurait-elle pas? Et vendue, n'était-elle pas en ton pouvoir? Comment t'es-tu proposé cette action dans ton cœur? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. »
Y avait-il, au jour des disciples, une chose plus importante que la présence de Dieu le Fils sur la terre? Y a-t-il maintenant que le Seigneur est remonté au ciel un fait plus important que l'habitation de Dieu le Saint-Esprit sur la terre? Certes, il n'est pas devenu chair comme le Fils, mais il habite aussi véritablement sur la terre. En fait, la présence du Consolateur est le grand événement de l'ère du christianisme. Or, y a-t-il quelque chose dont on tienne moins compte? Dans l'Ancien Testament, l'Esprit opérait sur la terre et les croyants de cette époque étaient nés de nouveau par l'Esprit. Mais jamais l'Esprit n'habitait sur la terre. Jamais, avant l'œuvre rédemptrice de Christ, Dieu n'a habité avec les hommes. Dieu n'a habité ni avec Adam, ni avec Enoch, ni avec Noé, ni même avec Abraham. Ce n'est qu'après que le sang de l'agneau pascal eut été répandu et que les Israélites eurent été séparés de l'Égypte par la mer Rouge, que Dieu put habiter au milieu du peuple, même s'il était caché derrière le voile, la vraie rédemption n'ayant pas encore eu lieu. Exode 29, versets 42 à 46.
Et je me rencontrerai là avec les fils d'Israël, et la tente sera sanctifiée par ma gloire. Et je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel, et je sanctifierai Aaron et ses fils, afin qu'ils exercent la sacrificature devant moi. Et j'habiterai au milieu des fils d'Israël, et je leur serai Dieu. Et ils sauront que moi, l'Éternel, je suis leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte, pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu.
Et de même, aujourd'hui, ce n'est qu'après que l'œuvre de la rédemption a été accomplie que le Saint-Esprit peut habiter avec nous, et cela non pas seulement pour un temps, comme le Seigneur Jésus n'a été que pour un temps avec les disciples. Il demeure avec nous éternellement. Et où habite-t-il?
Il sera en vous.
Jean 14, verset 17.
L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même ? 1 Corinthiens 6, verset 19.
Cette personne divine vient pour faire de nous, de notre propre corps, son habitation, son temple. Mais le péché n'habite-t-il pas en nous? Comment le Saint-Esprit peut-il demeurer dans un tel corps? Et c'est en fait l'argument des diverses formes du perfectionnisme. Christ et Bélial ne peuvent pas habiter dans un seul et même temple. Et en vérité, notre corps ne peut pas être le temple de l'Esprit de Dieu et celui de Bélial. Mais nous voyons, au grand jour des propitiations, comment Dieu peut habiter au milieu d'un peuple pécheur.
Et il fera propitiation pour le lieu saint, le purifiant des impuretés des fils d'Israël et de leurs transgressions, selon tous leurs péchés. Et il fera de même pour la tente d'assignation, qui demeure avec eux au milieu de leurs impuretés. Lévitique 16, verset 16.
Dieu n'habite plus dans des édifices faits de main, mais dans des hommes. Et l'habitation du Saint-Esprit est la preuve de la perfection du sacrifice. Hébreux 10, versets 14 et 15.
Car par une seule offrande, il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Et l'Esprit Saint aussi nous en rend témoignage.
Toutefois, l'Esprit n'habite pas seulement dans chaque croyant.
Il demeure avec vous.
Il habite aussi au milieu des croyants.
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ou parmi vous ? 1 Corinthiens 3, verset 16. En qui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Éphésiens 2, verset 22. Car aussi nous avons tous été baptisés d'un seul Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 13.
Ah, combien cette vérité est en pratique méconnue dans la chrétienté, même dans les groupes les plus orthodoxes. Le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Jean 14, verset 17.
L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous.
Dieu le Fils est devenu chair afin de manifester le Père, mais le monde a
et vu et haï, et moi et mon Père. Jean 15, verset 24.
Maintenant, le Fils laisse le monde et Dieu le Saint-Esprit descend sur la terre, mais il ne devient pas chair comme le Fils. Le monde s'est manifesté ennemi acharné de Dieu et a même rejeté le dernier et le plus grand des témoignages de Dieu. Matthieu 21, verset 33-41.
Écoutez une autre parabole. Il y avait un maître de maison qui planta une vigne et l'environna d'une clôture et y creusa un pressoir et y bâtit une tour. Et il la loua à des cultivateurs et s'en alla hors du pays. Et lorsque la saison des fruits approcha, il envoya ses esclaves aux cultivateurs pour recevoir ses fruits. Et les cultivateurs, ayant pris ses esclaves, battirent l'un, tuèrent l'autre et en lapidèrent un autre. Il envoya encore d'autres esclaves, en plus grand nombre que les premiers, et ils leur firent de même. Et enfin, il envoya auprès d'eux son fils, disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais les cultivateurs, voyant le fils, dirent entre eux, « Celui-ci est l'héritier, venez, tuons-le, et possédons son héritage. » Et l'ayant pris, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Quand donc le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces cultivateurs-là? Ils lui disent, il fera périr misérablement ces méchants et louera sa vigne à d'autres cultivateurs qui lui remettront les fruits en leur saison.
Il n'y a maintenant plus aucune offre de grâce pour le monde. N'ayant pas voulu croire, il ne peut pas voir le Consolateur et ne le connaît pas. Mais nous le connaissons, Jean 14, verset 17.
Vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous.
Tout d'abord, par la parole du Seigneur Jésus que nous recevons par la foi, mais aussi par les conséquences de la présence du Saint-Esprit. Si une personne divine demeure en nous, et est la puissance qui nous permet d'être en communion avec Dieu et de jouir de tout ce que Dieu nous donne, se pourrait-il que nous ne connaissions pas cette personne? Romains 8, verset 16 nous dit
« L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. »
dit le Seigneur Jésus, Jean 14, verset 18. Dans l'Esprit, il vient chez les siens sur la terre, et c'est leur consolation. Et bien que, par grâce, ils aient cru en lui, comme le Fils de Dieu, ils le verront alors d'une manière beaucoup plus réelle qu'ils ne l'ont jamais vu de leurs yeux naturels, leur connaissance étant beaucoup plus profonde. Le Saint-Esprit est venu pour bâtir la maison de Dieu sur la terre, pour y habiter, et faire de chaque croyant individuellement son temple vivant. Il est venu pour faire de nous le corps de Christ, et constituer en un les croyants avec Christ la tête dans la gloire. Éphésiens 1, verset 22.
Il a assujetti toute chose sous ses pieds et l'a donné pour être chef sur toute chose à l'assemblée.
Mais cela va encore plus loin.
Parce que moi je vis, vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Jean 14, verset 19 et 20.
Le croyant est uni personnellement à Christ. On trouve là la communion de nature et de vie, et le Saint-Esprit est la puissance et le lien de cette union. Non seulement je connais Christ dans la gloire, comme l'objet de mon cœur, mais le Saint-Esprit m'apprend que je suis uni à lui. Cela n'a jamais existé dans l'Ancien Testament, et dans le millénium, cela n'existera pas non plus. Certes, Joël 2, verset 28, parle d'une effusion du Saint-Esprit, mais nous ne trouvons jamais que le Saint-Esprit habitera sur la terre dans les croyants.
Joël 2, verset 28, « Et il arrivera, après cela, que je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards songeront des songes, vos jeunes hommes verront des visions. »
Il ne conduira personne à adorer Dieu dans le lieu très saint. Le voile ne sera alors plus déchiré. Ézéchiel 41, verset 23.
Et le temple et le lieu saint avaient deux portes.
En Ézéchiel, nous trouvons bien des sacrificateurs qui exercent un service sacerdotal, mais jamais dans le lieu très saint. Et nous ne voyons pas, en Ézéchiel, que l'autel de bois qui sera dans le lieu très saint soit employé. Je crois que ce sera une indication pour les sacrificateurs de l'existence d'un autre peuple de sacrificateurs servant Dieu dans sa présence immédiate, de même que, en Lévitique 16, la famille sacerdotale d'Aaron avait une position séparée du peuple. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'agissent pas séparément dans cette œuvre bénie. Le Saint-Esprit vient pour établir la communion, mais c'est le Père qui l'envoie dans son amour. Et il l'envoie au nom du Fils, Jean 14, verset 26, afin que le Fils soit glorifié, Jean 16, verset 14.
Jean 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. » Jean 16, verset 14, « Celui-là me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Dans sa vie sur la terre, le Seigneur Jésus a révélé le Père dans toutes ses voies de grâce et d'amour. Jean 1, verset 18.
Personne ne vit jamais Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître.
Ces paroles étaient les paroles du Père qui l'avait envoyé. Jean 7, verset 16 à 18.
Jésus donc leur répondit et dit, « Ma doctrine n'est pas mienne, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra de la doctrine si elle est de Dieu, ou si moi je parle de par moi-même. Celui qui parle de par lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. » Jean 14, verset 24, « Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. »
Le Saint-Esprit rappellerait aux disciples ces paroles, Jean 14, verset 26.
Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites.
Mais il rendrait aussi témoignage de Jésus glorifié, Jean 15, verset 26.
Mais quand le Consolateur sera venu, lequel moi je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, celui-là rendra témoignage de moi.
Et Jean 16, verset 13.
Et quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses qui vont arriver.
De même que le Seigneur Jésus, durant sa vie ici-bas, était simultanément dans le sein du Père, dans le ciel, et pouvait ainsi faire connaître le Père et communiquer les choses qu'il avait vues, Jean 1, verset 18 et 3, verset 11 à 13, ainsi aussi le Saint-Esprit sur la terre parle aux croyants de ce qu'il a entendu et vu au ciel de Jésus glorifié, Jean 16, verset 13.
Jean 1, verset 18, « Personne ne vit jamais Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. » Jean 3, verset 11 à 13, « en vérité, je te dis, nous disons ce que nous connaissons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez pas, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Et personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Jean 16, verset 13, « Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses qui vont arriver. »
Lui qui est lui-même Dieu, béni éternellement, et un avec le Père et avec le Fils, a pris une place de dépendance. Il se laisse envoyer par le Père, Jean 14, verset 26, et par le Fils, Jean 15, verset 26, et il ne parle pas de par lui-même, c'est-à-dire pas d'une manière indépendante du Père et du Fils.
Jean 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. » Jean 15, verset 26, mais quand le Consolateur sera venu, lequel moi je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, celui-là rendra témoignage de moi.
Il rappelle aux disciples les paroles que le Seigneur Jésus a dites, Jean 14, verset 26, de sorte qu'ils peuvent rendre témoignage du Seigneur, Jean 15, verset 27.
Et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que dès le commencement vous êtes avec moi.
C'est ce que nous trouvons dans les évangiles, mais il donne lui-même un complément céleste par son témoignage de la position céleste du Seigneur Jésus, que lui seul peut donner, afin qu'ils en soient informés et que leur cœur puisse s'en réjouir. Nous trouvons cela dans les Actes des apôtres et dans les Épîtres. Et il leur annoncerait les choses qui vont arriver, l'avenir, Jean 16, verset 13, ce que nous trouvons aussi dans les Épîtres et dans l'Apocalypse.
Jean 16, verset 13, « Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses qui vont arriver. »
Toutefois, bien que le Saint-Esprit soit la source bénie de nos sentiments, il ne peut pas en être l'objet comme le Seigneur Jésus. En tant que Dieu, nous l'aimons et nous l'apprécions, mais il n'est pas devenu homme pour nous. Il n'est pas mort pour nous, et nous ne pouvons pas être unis à lui. Nous ne pouvons pas dire de lui comme de notre Sauveur.
Car, et celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Hébreux 2, verset 11.
Le Saint-Esprit ne s'est pas placé envers nous dans le même rapport que le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, qui est devenu homme et le restera toujours, qui était au milieu des siens comme celui qui sert. Mais tandis que ce Jésus dans la gloire est notre avocat auprès du Père, nous avons ici-bas un autre avocat, Dieu le Saint-Esprit qui est en nous et avec nous éternellement.